Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Et je dis on vous résume l'actu, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque de temps en temps on fait des épisodes spéciaux où on se consacre entièrement à un sujet spécifique. Ça va être le cas et on va parler de la tech et des réfugiés et de comment cet aspect de notre vie que nous pensons un petit peu acquis peut être extrêmement important pour des personnes qui n'y ont plus accès à des moments évidemment difficile. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir pour ce sujet qui est un petit peu compliqué, trois personnes qui le connaissent bien mieux que moi. On va commencer par ce côté de la table virtuelle de Skype. Louise Brosset, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour Patrick, merci beaucoup pour l'accueil. Donc, je m'appelle Louise et je travaille chez TechFugees, qui est une organisation internationale principalement de personnes bénévoles qui réfléchissent justement à comment la technologie peut venir en soutien et aider à l'indépendance des personnes déplacées. Et je m'occupe depuis 3 ans de la coordination de la communauté internationale. Merci de me recevoir.
Mais avec grand plaisir, merci d'être là. On a également Sharania Thakur. Je lis à la française et ça me fait un petit peu mal parce que j'ai l'habitude de lire les noms avec le bon accent. Mais comme je ne suis pas sûr de l'accent, je ne veux pas dire de bêtises. Donc Sharania, merci d'être avec nous.
Merci Patrick de nous avoir accueillis. Oui, la prononciation c'est très très bien, c'est Sharania. Donc oui, je m'appelle Sharania et je travaille chez Gravity. On est une start-up franco-canienne qui fournit des solutions numériques basées notamment sur l'identité digitale et de la blockchain pour aider des populations vulnérables comme les réfugiés ou les PMO informels à accéder à des services essentiels comme l'aide humanitaire, l'emploi et des services financiers. Et c'était en fait mon intérêt dans ces sujets, donc comment utiliser la technologie pour aider des populations fragiles, qui m'a amenée à TechFugees, où je suis maintenant co-responsable du chapitre français.
Super, merci beaucoup Sharania. Effectivement, TechFugees est une organisation internationale, je crois que Louise l'avait mentionné, je le répète. Et enfin, quatrième personne à cette table, on a Nour Alazkani qui se joint à nous. Bonjour Nour, comment ça va ?
Bonjour, alors moi ça va très bien. Merci pour l'invitation également. Je suis très content de parler avec vous sur ce sujet. Alors, qui je suis ? Donc Nour Alazkani, ambassadeur de la plateforme réfugiés.info, une solution qui propose de l'information simple et traduite pour les personnes réfugiées et leurs aidants. On en parlera plus tard. Je travaille donc à la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés et à la MEDNUM, donc la médiation numérique, une société coopérative qui travaille d'intérêt collectif, qui travaille sur l'inclusion numérique. Donc, ces deux entités qui portent le projet réfugiés.info dans lequel je travaille. Et avant ça, je suis moi-même donc membre de l'associatif. J'ai travaillé dans une association pendant 4 ans qui accompagne les personnes réfugiées d'une manière générale et plus précisément sur le volet logement. Et juste avant, moi-même, je suis une personne réfugiée, donc il y a 7 ans, je suis arrivée en France de Syrie, donc j'ai aussi pu demander, faire le parcours de la demande d'asile et puis l'obtenir et par la suite recommencer une vie en France, donc content de pouvoir participer à votre émission.
Merci beaucoup, Nour, et merci à tous les trois. Bah, écoutez, ça va être, je pense, une émission extrêmement intéressante et on va se lancer. Ce que je vous proposais avant de commencer l'enregistrement, c'est de suivre un petit peu, de faire un parallèle avec le parcours d'une personne réfugiée, en commençant par la situation quand on est en train de quitter son pays. Et évidemment, on va évoquer les questions tech, peut-être, mais pas que, mais on va essayer de les évoquer essentiellement. Puis ensuite, l'arrivée en France notamment, c'est peut-être similaire dans d'autres pays, et puis ces premiers moments qui doivent être si compliqués, et enfin, le chemin vers l'intégration et la normalisation de la situation. Donc, commençons d'abord peut-être par cette situation que beaucoup d'entre nous ne connaissent que à la télévision ou dans des médias, le moment où on quitte où on est contraint de quitter le pays dans lequel on vit et à quel point la tech peut, ou l'absence de tech peut rendre les choses plus difficiles. Alors, je vais ouvrir le micro à qui veut en parler. Peut-être que Nour sera le plus apte à commencer. Comment est-ce que ça se passe spécifiquement au niveau tech, mais pas que, quand on est dans cette situation où on est contraint de quitter son pays?
Oui, merci. Alors, d'abord, il faut savoir, chers auditeurs, donc, les choses ne sont pas forcément très décidées, très volontaires. Ce n'est pas un voyage comme on part en voyage en vacances, c'est un peu différent. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, la tech, pour moi, a une place centrale dans avoir l'information, surtout sur la prochaine étape. Il y a toujours cette notion de c'est quoi la prochaine étape dans un parcours migratoire par la voie terrestre, surtout avec un groupe de personnes avec lesquelles le chemin peut être parcouru. Donc, avoir l'information est d'une manière traduite. Pour moi, c'est un essentiel chose à ce parcours. Et la tech a un rôle essentiel, surtout les réseaux sociaux ont un rôle essentiel à jouer. Et donc la disponibilité d'informations en temps réel dans des sortes des groupes où les choses donc se disent, d'ailleurs à l'oral par des vidéos ou par des audios ou par écrit, ça dépend beaucoup du niveau d'éducation des personnes, l'origine et la provenance, mais donc la technologie, on voit bien que c'est le facteur qui permet aux gens de s'organiser étape par étape. Et donc encore une fois, c'est vraiment un moment d'incertitude totale. Pour la plupart, à commencer sans forcément choisir le jour J, on va démarrer notre voyage. C'est souvent lié à des causes qui sont définies hein, dans la loi, de ce qu'on définit un pays non sûr, donc des guerres ou des conflits ou etc. Enfin, ou autre. Si. Donc, c'est un moment d'incertitude dans lequel l'information a un rôle essentiel et surtout à travers les smartphones qu'on a aujourd'hui.
C'est pour bien qu'on comprenne la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que on est dans un pays où, bon, dans le cas de la Syrie dont on peut peut-être parler, je suis sûr que c'est parfois similaire, parfois non, mais on est chez soi, on sent bien que les choses sont en train de se dégrader, et puis un jour, on entend les canons qui sont plus proches que la veille, et on se dit bon bah écoute, là il y a pas de il y a plus le choix, il faut qu'on y aille. Donc on met quelques vêtements dans son sac, évidemment on prend son smartphone et son chargeur parce qu'on se rend bien compte que les choses, enfin que c'est des outils essentiels. Et puis on commence à marcher, peut-être qu'on prend un bus ou un avion ou quelque chose pour essayer d'arriver à un endroit où on va, pas forcément un avion, mais à arriver à un endroit d'où on va pouvoir commencer son voyage. Et il y a une chose qui me frappe, Nour, c'est la question, la première chose à laquelle je pense même pas, c'est la question de la traduction, parce que tu l'évoquais, l'idée que bah, on ne sait pas où on va aller et ce qu'on va faire, ça peut être encore plus compliqué par le fait qu'on est dans un pays dont on ne parle pas la langue, au-delà du fait même que le parcours est compliqué à trouver. Quoi. Est-ce que... Louise, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur ce point.
Oui, absolument. Merci, Nour, pour cette réponse. Je dirais déjà que je pense que c'est important de le rappeler, autant de parcours différents que de personnes qui ont dû quitter leur pays pour des causes très très différentes de vie qui sont menacées, mais ça peut être des conflits généralisés, ça peut être une situation personnelle aussi. Et je pense que le rôle des réseaux sociaux et des groupes communautaires justement pour se donner des conseils sur les parcours, sur les services qui sont disponibles le long d'une route suivie pour fuir son pays sont très très importants. Et sur la traduction, il y a des gros services comme Google ou comme Google ou autres qui sont utilisés, mais les groupes Facebook entre nationalités qui parlent la même langue aussi sont très très présents. C'est une des utilisations assez importantes, et il y a aussi toutes les autres utilisations qui sont simplement rester en contact avec des amis ou de la famille, avoir accès à l'information comme disait Nour, et puis pouvoir continuer à aussi utiliser de l'argent, parfois de l'argent mobile pour subvenir à ses besoins le long de l'exil.
C'est-à-dire que concrètement, ça se passe comment ? On a son téléphone, il y a des choses toutes bêtes hein, qui me viennent à l'esprit, mais peut-être qu'on fait partie de groupes, je ne sais pas, de groupes Telegram ou WhatsApp, où les gens qui ont déjà suivi le même parcours ou qui sont peut-être déjà arrivés peuvent donner des conseils. Mais ne serait-ce que pour la question bête, moi, qui me vient à l'esprit, pour l'abonnement aux données dans le pays dans lequel on est, qui n'est pas notre pays, comment est-ce qu'on fait pour prendre un abonnement et avoir accès quand on est sur la route ? On achète simplement une carte SIM locale ? Comment ça se passe ?
Alors, ça dépend. Je ne sais pas si Nour, tu veux répondre ?
Oui, mais je rappelle encore, et merci Louise de l'avoir dit, effectivement, il y a beaucoup de cas. Il n'y a pas de cas typique. Mais il n'y a pas de cas typique et donc pas des deux histoires qui se ressemblent. Mais pour la plupart du temps, c'est les gens savent, il y a des groupes, des personnes qui peuvent faire le chemin ensemble et ils ont entendu avant de démarrer, si vous voulez, de tel pays, il y a des cartes SIM qui s'appellent X marque ou X marque qui ne demandent pas forcément. C'est des cartes préchargées donc ouais. qui peuvent faire le chemin dans plusieurs pays. Par la suite, c'est une autre question, complètement une autre question, une fois arrivé dans le pays où la personne souhaite s'installer, ou en tout cas, il va s'installer. La question d'accès à l'abonnement, ça reste lié à une autre problématique qui est avoir accès à un compte bancaire pour lequel il y a tout un chemin, tout un temps, la demande d'asile faite. Et accepter pour que la personne donc puisse, même si théoriquement il peut y avoir autre, mais c'est un des difficultés d'ailleurs soulignées, c'est l'accès à un compte bancaire dans le pays d'accueil, et par la suite donc enchaîner plusieurs types de choses, d'ailleurs prendre un abonnement internet pour chez soi, comme un abonnement téléphonique, comme autre service de base, et donc ça c'est un problématique une fois arrivé, mais sur le chemin, c'est la plupart du temps, en tout cas ce que je constate, c'est beaucoup des cartes SIM des entreprises qui sont donc rechargeables, activées avant l'achat, et donc ça permet à la personne d'avoir un moindre coût. Il y a toute l'économisation aussi de comment j'utilise et quand mes données, l'accès à des Wi-Fi publics dans les pays, dans les restaurants, dans les points qui sont connus sur les réseaux, sur la communauté, sur lesquels les personnes peuvent s'appuyer pour avoir de la connexion. Et c'est très, dans les gares aussi, c'est très difficile cette question, et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Louise, j'imagine que vous travaillez sur la question aussi dans certains pays, et je pense que c'est vraiment une des cœurs des choses qui ne sont pas faciles à avoir, qui sont difficiles, qui compliquent les choses, de ne pas avoir accès un plan data sur la route.
Oui.
Absolument. Et juste, j'ai entendu que Charania avait réagi sur la partie accès au compte bancaire, et je sais qu'avec Gravity, vous travaillez pas mal là-dessus aussi. Juste peut-être un chiffre qui vaut le coup d'être rappelé, c'était le HCR, donc la branche de l'ONU qui travaille avec les personnes déplacées en 2016, qui estimait qu'au moins 93% des personnes réfugiées dans le monde vivaient dans des zones de connexion avec une connexion 2G ou 3G. Ce qui est important de rappeler, c'est que la connexion est là, mais le problème pour accéder à la connexion, c'est soit le coût des données, soit toutes les réglementations qui font que on a besoin de papier d'identité, on a besoin d'un compte bancaire local, etc. Et c'est vrai que les points d'accès Wi-Fi, comme tu le rappelles, Nour, c'est souvent un lieu essentiel, et il y a beaucoup de projets qui se sont montés pour donner justement et promouvoir cet accès gratuit à Internet comme un droit, pour se renseigner sur ses droits, pour se renseigner sur les démarches administratives, etc., pour rester en contact avec ses proches. En France ou ailleurs, on avait travaillé par exemple avec Télécom Sans Frontières, qui travaille dans des zones de catastrophes naturelles et de déplacements forcés. Ils sont basés à Pau. Il y a aussi vers Calais et Grande-Synthe un projet qui s'appelle Refugee Infobus, qui est un bus en fait avec des box Wi-Fi pour que les gens puissent se connecter et avoir des conseils sur sur leur situation et sur quoi faire. Mais la partie compte bancaire et inclusion bancaire et identité digitale est assez importante. Et là-dessus, peut-être que Charania, toi, tu voudrais parler d'exemples au Kenya ou en Turquie où je sais que tu as travaillé.
Peut-être on peut y revenir quand on parle de l'insertion et de l'arrivée dans les pays d'accueil. Mais tout à fait, oui, c'est une... Nour aussi, il a parlé un petit peu, mais c'est juste qu'en fait, il y a des réglementations très, très strictes sur les documents qui sont requis pour avoir une forfait ou un abonnement mobile ou Internet, notamment pour les réglementations KYC et AML qui ont été mises en place pour... empêcher les transferts d'argent pour les activités de terroristes. Et donc, pour ça, il faut avoir une preuve d'identité légale dans les pays d'accueil qui peut être montrée à l'autorité réglementaire. Et c'est après ce procès-là que les personnes déplacées peuvent avoir accès à un abonnement mensuel pour les données ou juste une connexion Internet. Donc ça aussi, c'est très important à retenir que, en fait, même si on a beaucoup de solutions sur le terrain en termes d'innovation technologique, après, c'est une question politique et de réglementation qui est aussi un empêchement en termes d'accès à l'information. Mmh.
On va peut-être commencer à se rapprocher de la question des débuts, de l'arrivée, de l'insertion et de comment ça fonctionne. Avant ça, il y a quelques éléments qui me viennent à l'esprit. C'est les informations pour continuer à avancer dans son parcours quand on est en train de quitter son pays et d'aller vers le pays d'accueil. Et il y a aussi la question du contact avec les proches. Alors, d'une certaine manière... C'est une situation qui est améliorée par rapport à l'époque où on n'avait pas les téléphones mobiles et Internet, parce qu'avant, on partait complètement à l'aventure et dans le noir. Mais c'est vrai que ce genre de choses peut être essentiel, peut-être pour rester en contact avec des gens qui sont déjà arrivés dans le pays d'accueil, peut-être des gens qui sont encore dans le pays dont on est parti. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément quand on n'a pas vécu ce genre d'épreuve que vous voudriez évoquer pour les présenter aux gens qui ne connaissent pas ça, d'autres éléments auxquels je pense pas.
Je peux commencer là-dessus. En fait, il y a énormément de besoins qu'une personne soit en déplacement ou installée temporairement dans un pays ou temporairement dans un camp, etc. Je pense que il y a des besoins qui sont présents en permanence, qu'on soit dans une zone de conflit, qu'on soit dans un camp, qu'on soit dans un pays en sécurité, entre guillemets. L'accès à l'information et la connaissance des droits, c'est quelque chose dont on a déjà discuté. L'accès à la santé, donc comment pouvoir aller voir un médecin, comment se faire suivre, comment se faire comprendre tout au long du parcours d'exil. La question de l'éducation. Donc, comment pour les enfants et pour les adultes aussi. Donc, comment assurer un suivi, comment assurer l'apprentissage d'une langue, comment assurer la continuité de la stimulation intellectuelle et chez TechFuji, on pense aussi beaucoup aux compétences digitales sur comment faire en sorte de pas rester derrière dans un monde qui devient de plus en plus numérique. Et la question de l'emploi, de l'inclusion financière. Et aussi, il y a la question de l'inclusion sociale, c'est-à-dire comment faire pour trouver un logement, comment faire pour rencontrer des personnes qui sont des besoins qu'on peut considérer comme étant secondaires, mais qui en fait sont, je pense, essentiels dans la sérénité et tout ce qui est lié au bien-être mental aussi, pas seulement physique et d'urgence.
Du coup, il y a une question qui me vient. On comprend, je crois, que tout passe par des outils numériques, essentiellement le téléphone mobile, et tous ces éléments disparates nécessitent une utilisation de téléphone mobile. Mais du coup, la question qui me vient, c'est comment est-ce que ça se passait avant, et est-ce que tout a convergé vers l'utilisation numérique, alors qu'avant, il y avait des centres d'information, des personnes qui étaient dédiées à ça. Et aujourd'hui, c'est moins le cas, donc le téléphone devient complètement indispensable. Ou est-ce que ces éléments non numériques restent présents et que du coup, on peut quand même se débrouiller un petit peu? J'ai l'impression que c'est plutôt le fait que on part du principe que dans la plupart des cas, sauf que dans des cas spécifiques, tout le monde a un téléphone. Et donc, il faut en avoir un, sinon on est coincé, quoi. Sharania, peut-être que tu voulais ajouter quelque chose, répondre sur ce point.
Oui, je pense qu'il y en a toujours des structures présentes dans les pays qui aident des gens pour planifier leur parcours et le voyage. Mais je pense que ce n'est pas peut-être la réponse, mais juste, je trouve que c'est très intéressant que, en fait, avec la croissance des outils numériques, la possibilité de faire ces voyages-là, ils ont devenu plus démocratiques dans un sens. Parce qu'avant, ces informations qui ont été, ils étaient réservées par quelques personnes qui avaient la connaissance du parcours et toutes les démarches à faire pour faire le voyage. Mais là, maintenant, avec les outils numériques, les informations sont plus faciles dans une manière à trouver. Donc, cela permet aussi aux gens qui n'ont peut-être pas le moyen de payer ces gens pour avoir ces informations. Mais peut-être, Nour ou Louise, vous pouvez ajouter quelque chose sur les questions originales de Patrick.
Alors oui, il faut jamais oublier le rôle des États, les rôles des campements qui sont mis en place, les rôles de l'UNHCR en tant que coordinatrice internationale des organismes aussi internationaux comme l'IOM auquel je pense. Il y a aussi ces structures-là. Il y a beaucoup d'associations locales et heureusement, il y a un tissu associatif qui accueille, qui accompagne, qui guide, qui donne de l'info. Il y a toutes ces choses qui existaient et qui continuent à exister. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Charnia, c'est une voie vers la démocratisation d'avoir les informations à pied d'égal via des groupes communautaires ou pas, sur des réseaux sociaux en tout cas, qui proposent de l'information. Et avec les outils, on en devient plus conscient des étapes à faire, et heureusement. Mais voilà, il y avait tout ce tissu qui existait depuis la nuit des temps, hein. Les États, les organismes locaux et les organismes internationaux, et puis des circuits, des personnes qui profitent aussi. Il y a tout un marché qui se monte aussi autour de ça, des passeurs, etc. Donc il y a toutes ces sources d'informations qui peuvent être contradictoires d'ailleurs pour les personnes sur le chemin, qui existent.
Je pense que...
Pardon Louise, vas-y.
je disais juste que je pense que les approches, que ce soit physiques et comme dit Nour, les associations, les États, les organisations internationales comme le HCR qui fournissent de l'information en présentiel, j'allais dire, sont complètement complémentaires avec l'approche numérique et je pense qu'on s'en est bien rendu compte pendant cette pandémie et pendant cet épisode de Covid-19 où en fait il y a des zones qui étaient complètement isolées et où le numérique prenait le relais ou accompagnait des personnes qui n'avaient pas forcément de soutien en physique. Donc c'est vraiment complémentaire et les deux vont main dans la main.
D'accord. Donc oui, les deux sont nécessaires, quoi. Parlons un petit peu plus spécifiquement du coup de l'arrivée. Quand on arrive... Une question très précise. J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire que presque sans téléphone, Et je parle bien sûr des téléphones parce que c'est l'outil qui me paraît le plus spécifiquement, enfin le plus facile et donc celui qu'utilisent le plus de gens. J'imagine que la plupart des gens ont des téléphones Android. C'est mon image, peut-être que je me trompe, mais mm-hmm. quand,
oui.
ouais, c'est le cas. Mm-hmm. Quand on arrive dans le pays, mais même pour le parcours, si on n'a pas de téléphone, on est complètement dépendant d'une personne du même groupe qui va avoir un téléphone. Mais j'imagine que c'est presque impossible de faire ce parcours si on n'a pas de téléphone. Tout le monde, c'est peut-être difficile de généraliser de cette manière, mais l'immense majorité des personnes qui font ce voyage ont un téléphone personnel à elles ou pas ?
Donc, si je me permets préciser quelque chose d'avant, c'est que on se concentre, j'ai l'impression, plus sur l'immigration qui se fasse via une voie terrestre ou via la mer. Il y a aussi une immigration qui est plus, pas réglementée, mais qui est plus, organisée par ce qu'on appelle des voies secours humanitaires, par le programme, l'engagement du l'ancien président et le président actuel d'accueillir 10 000 personnes réfugiées. Et pour le coup, c'est toute une autre logistique qui passe des points d'accueil, des campements, à côté des campements dans des pays limitrophes à des pays en conflit, et qui par la suite recommande qui choisissent des personnes selon les critères établis et qui par la suite leur arrivée se prépare par des avions, etc. Ce qui représente aussi une part, on parlera plus tard sur des chiffres pour que vous voyez plus de quoi il s'agit, mais il y a aussi ces voies-là. Donc là, si on se concentre que sur la voie terrestre, etc., c'est effectivement, on pourrait donc continuer. C'est vrai que c'est la majorité des personnes aussi. Donc, si on parle des majorités, il faudrait qu'on se concentre là-dessus, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres voies qui ne sont pas forcément de ce genre des choses et où le téléphone sert d'un point d'appui, de lien avec sa famille, ne pas complètement être déraciné, même si ça existe toujours et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on a un contact en plus avec sa famille, des personnes de sa communauté, etc., grâce au réseau et au smartphone. Et vous avez raison, c'est les smartphones qui gagnent, et l'Android pour la plupart, enfin en majorité, très peu des personnes ont des ordinateurs portables. Suivant, il y a des affaires qui sont perdues sur le chemin où c'est lourd et c'est pas pratique et donc il ne faut pas l'avoir. Et donc c'est des smartphones qui ont gagné cette utilisation. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est à l'aise numériquement. Et ça, c'est tout un autre débat. Il y a un autre sujet sur qu'est-ce qu'on utilise en étant demandeur d'asile ou une personne migrant avec son smartphone, autre que le logiciel de messagerie instantanée et des réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une question importante qui nous échappe des fois parce que les travailleurs sociaux peuvent dire, bah oui, ils sont équipés, ils ont des smartphones, mais ça ne veut pas dire que les démarches administratives, on peut le faire sans être accompagné.
Ouais. D'accord, donc ça veut dire que quand on arrive dans le pays d'accueil, du coup, a priori, on a un smartphone. Donc la question, en fait, j'imagine que moi-même et mon audience pouvaient se poser la question, peut-être que la première étape, c'est même de fournir un smartphone à la personne qui débarque. En fait, ce n'est pas ça la première priorité, puisque la plupart, d'après ce que je comprends, sont déjà équipés. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui en ont besoin, mais la plupart sont équipés. Par contre, l'utilisation du smartphone dans ce nouveau contexte n'est pas forcément évidente. J'imagine qu'il y a des questions d'éducation numérique, des questions même de langue qui ne sont pas forcément évidentes, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la manière dont la technologie joue un rôle important dans cette première étape dans l'arrivée du pays ?
Oui, je pourrais vous parler. Je vois bien qu'il y a des micros qui s'ouvrent. Je laisse
vas-y,
absolument.
Merci Noé et merci Patrick. Alors déjà, il y a une petite précision sur... Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire que tout le monde est équipé d'un smartphone en arrivant en France. Et il y a aussi des
C'est bien, justement, c'est la question que je pose. Donc,
Mais alors, je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, tout le monde n'est pas équipé de smartphone. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Nour, sur le fait d'avoir un smartphone, ce n'est pas tout, il faut aussi être en capacité de rechercher l'information et faire confiance à l'information. Donc, je reviendrai sur ta question, Patrick.
Vas-y, pas de problème.
Sur la question de la confiance, je pense que c'est quelque chose qui est assez important aussi parce que, en tout cas, via notre expérience avec Étudis, on a vu que depuis 5 ans, il y a énormément d'applications qui se sont lancées pour donner de l'information aux personnes qui sont réfugiées ou déplacées, etc. Il y a beaucoup de projets numériques aussi qui ont commencé avec une grande énergie et finalement n'ont pas forcément abouti avec des informations qui ne sont pas forcément toujours à jour, etc. Donc ça, il y a aussi une défiance parfois par rapport au numérique et un besoin de rassurer, de savoir quelle application ou quel contenu je vais utiliser pour mes démarches administratives, etc. Donc là, le rôle
Tu veux dire que le problème de ces applications qui ne sont pas forcément à jour et qui sont un petit peu délaissées, ce n'est pas uniquement le fait qu'il y ait des informations qui ne soient pas à jour, mais aussi les personnes qui ont eu cette expérience et qui se sont retrouvées, qui ont eu des informations erronées et qui leur ont posé des problèmes, du coup font moins confiance à ce type d'outils en général, c'est ça ce que tu veux dire ?
Ça peut arriver, en tout cas sur les applications notamment. Et d'où beaucoup plus de confiance aussi sur les groupes communautaires, encore une fois sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Mais il y a deux types, je pense, de contenu. Il y a des applications ou des sites qui sont faits par des services étatiques sur les démarches administratives où là en fait c'est un organisme qui est reconnu et donc où il y a la confiance. Sur des projets qui sont plus privés, et je pense encore une fois à santé ou éducation ou emploi ou inclusion sociale, financière. Sur ces projets-là, des projets récents qui se montent, il y a aussi la notion de confiance à bâtir avec les utilisateurs. Et je pense que ça, c'est assez important. Pour revenir sur ta question initiale qui est qu'est-ce qui se passe à l'arrivée alors là, j'ai l'impression qu'on s'est centré sur la France et c'est des démarches qui sont un peu différentes aussi en fonction de... Du pays d'arrivée et de la façon, enfin la manière dont la personne arrive sur le territoire. Il y a un parcours qui est assez classique, en fait, qui est on vient demander l'asile sur un territoire, l'asile politique. Donc on s'enregistre auprès de l'État pour signaler sa demande d'asile et on passe à travers tout un processus pour que l'État reconnaisse. Donc c'est en France un organisme qui s'appelle l'OFPRA. Qui va reconnaître cette demande d'asile et accorder un statut de personne réfugiée. Donc, encore un rappel, être réfugié, c'est un statut juridique ponctuel. Et pendant ce parcours-là, on va avoir beaucoup d'interactions avec le tissu associatif sur des besoins différents, avec les acteurs publics sur tout ce qui est démarches administratives. Et les utilisations du numérique sont très, très larges. Il y a des projets, par exemple, sur l'apprentissage de la langue française, comme Frelo ou Abajad, par le numérique pour faciliter, en fait, la vitesse, j'allais dire, d'inclusion ou de compréhension des personnes avec qui on évolue tous les jours. Il y a des super projets aussi sur l'accès au logement, par exemple, pour faciliter l'accès au logement. Et je pense notamment à une plateforme que Singa a créée qui s'appelle Calm pour mettre en relation et créer de la connexion entre des personnes qui arrivent en France et des personnes qui vivent en France depuis plus longtemps pour partager des expériences, partager un réseau. Donc, il y a beaucoup de cas d'utilisation différentes, encore une fois.
Merci Louise pour cette transition. Je pense qu'on a besoin de quelques petits chiffres pour voir un peu plus clair sur la situation dont, en France. Donc là, on va se concentrer sur ce qui se passe sur notre territoire. Pour rappeler, alors il y a trois termes qu'on utilise beaucoup pour parler de ce monde. On parle des migrants, des exilés, on parle des demandeurs d'asile et on parle des réfugiés. Il faudrait un peu mettre au clair ce que ça veut dire chacun. Un migrant, un exilé, c'est quelqu'un qui, donc une personne qui est en situation de migration. Donc il n'y a pas forcément un statut derrière ce mot. C'est une personne qui s'est déplacée de force, qui va s'installer dans un autre pays ou un déplacé. On dit aussi quand il est déplacé interne à son propre pays. Donc ça, pour aussi dire une généralité qu'on oublie souvent aussi, parce que ce n'est pas des questions qui reviennent dans les médias tous les jours, il y a plus de migration sud-sud sur cette planète qui se passe donc dans les continents sud et non pas forcément en Europe. Donc ça, c'est une première chose à dire. Et puis, pour la France, si on veut se concentrer plus généralement, donc, je préparais les chiffres de 2019 et 2020 pour donner une idée de ce qui se passe en termes de d'arrivée des étrangers en France qui peuvent ne pas être réfugiés aussi. Et ça, c'est important à rappeler parce que vous allez voir la différence de chiffres entre l'arrivée des demandeurs d'asile, donc des migrants qui demandent l'asile et que par la suite sont acceptés ou pas, ça c'est une autre question, et l'arrivée des étrangers d'une manière générale. Un Chinois, un Américain, un Britannique qui veulent s'installer en France pour faire des études temporairement ou pour une longue durée, ça c'est une chose. Donc en 2019, pour commencer, il y a eu 3,5 millions des étrangers qui ont eu des visas et qui sont ou pas, mais qui sont rentrés en France. Donc c'est 3,5 millions de personnes réparties entre des étudiants, des travailleurs et des demandeurs d'asile. Mais il faut savoir que parmi ces 3,5 millions, il y a seulement 177 000 personnes qui ont demandé l'asile, pour lesquelles il n'y a que 36 000 qu'on a accepté, qu'on a accordé l'asile. Donc si, vous voyez, les chiffres peuvent faire peur, donc entre les 3,5 millions des étrangers qui rentrent en France pour plein de divers sujets, il n'y a que 170 000 personnes qui ont demandé l'asile, qui sont des personnes réfugiées, enfin qui 36 000 parmi eux ont devenu des personnes réfugiées statutaires. Donc voilà, on est sur ces chiffres-là pour 2019 et pour 2020, qui est une année frappée par le Covid, pour laquelle il y a beaucoup moins de circulation. D'ailleurs, on n'a pas pu faire nos vacances comme on souhaitait, mais du coup, aussi mondialement, il y a eu le 3,5 millions d'étrangers baissent à 700 000 étrangers en tout qui ont rentré le territoire pour l'année 2020, dont seulement 81 000 demandeurs d'asile. Donc de 700 000 étrangers, il n'y a que 81 000 demandeurs d'asile pour que les chiffres qui nous intéressent, les réfugiés statutaires, ceux qu'on a acceptés parmi les 81 000 qui ont demandé l'asile, il n'y a que 24 000 auxquels on a accordé le statut. Donc on est sur des chiffres, encore une fois, les réfugiés statutaires qu'on leur a accordé le statut en 2019, 36 000. Et en 2020, on est sur 24 000 personnes qui, donc l'OFPRA, que Louise a évoqué tout à l'heure, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a dit oui, on accepte ces personnes. Il y a aussi le CNDA, le Cours national des droits de droit d'asile, qui, suite à une refus de l'OFPRA, la personne peut faire recours pour revoir leur cas. Donc les deux ensemble ont accepté les 36 000 en 2019 et 24 000 en 2020. J'allais parler plus généralement du coup sur les demandeurs d'asile et quand ils arrivent et le lien avec la technologie.
Mais vas-y.
Donc simplement sur les demandeurs d'asile, donc les personnes qui arrivent en France et qui déposent une demande d'asile, qui se déclarent intéressées pour demander l'asile. Alors, C'est quelque chose de difficile parce qu'il n'y a pas un guichet unique numérique, si vous voulez, qui explique la demande d'asile. C'est quelque chose qui est, bien sûr, c'est organisé par l'État. Donc il y a des guichets, il y a ce qu'on appelle l'OFI, l'Office français d'intégration et d'immigration, qui en partie prend en charge aussi, avec les préfectures, donc le ministère de l'Intérieur, qui délivre, si vous voulez qu'on rentre en détail rapidement, un certificat, on appelle ça un récépissé, qui autorise la personne temporairement à rester sur le territoire le temps qu'on étudie sa demande d'asile. Par la suite, il a la réponse pour sa demande d'asile. Et entre cette période, qui est officiellement annoncée de 6 mois, mais dans la vérité, peut prendre jusqu'aux 2 ans, c'est une période compliquée parce que moi, si je reviens à mon cas, il faut que je précise aussi que mon cas n'est pas du tout représentatif, parce que, comme l'a dit Louise, et je le rappelle, et il faut vraiment le rappeler, c'est que chaque personne est unique, son cas est unique, il n'y a pas de généralité à faire. Donc, il m'a fallu, mais je suis arrivé il y a aussi longtemps, je suis arrivé en 2014, les personnes qui arrivent aujourd'hui, c'est un peu différent, un peu mieux, pour certaines parties, et tant mieux, mais donc, moi, ça m'a pris... 1 an et demi pour obtenir la décision entre le moment où je suis arrivé sur le territoire et de dire vous êtes accepté et voici le titre de séjour. Mais pendant cette période, ce qui est difficile, c'est j'ai beaucoup essayé. Moi, je suis geek d'avant. Je travaille dans le numérique. Mes études aussi étaient dans le numérique. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout représentatif de parler inclusion numérique. Parce que c'est quelque chose qui est que je dirais pas que je maîtrise, mais je suis assez à l'aise avec. Je me suis dit en arrivant, c'est pas normal qu'on peut commander un burger en 2 minutes sans bouger de sa chaise et que ça arrive sans aucun effort, alors quand on est un demandeur d'asile, il n'y a pas un site qui nous permet de donner des informations qui sont à jour et qui sont traduites. C'est tout l'origine aussi du projet sur lequel je travaille aujourd'hui, parce que ça reste une question qui n'a été pas résolue. On voit bien d'autres tentatives dans des pays européens, comme l'Allemagne, comme la Suède, qui ont aussi construit des plateformes que certaines informations, c'est difficile de continuer à la mettre à jour, parce que la législative bouge beaucoup sur ces questions-là, et ce qui fait que donc, ça avance, mais du coup, c'est compliqué à suivre, et les personnes restent non informés, surtout avec des choses non traduites. Et donc, la technologie, à mon sens, a un rôle essentiel de continuer d'avancer et de continuer de mettre des solutions en place pour produire des informations accessibles, donc traduites, simplifiées, vulgarisées pour les personnes à travers leur smartphone.
Et tu confirmes du coup que tout ça passe par le smartphone. Toutes ces démarches dont tu parlais, ce parcours administratif à faire, tout passe par le smartphone pour les personnes qui sont dans cette situation.
Non. Les manières d'obtenir des informations restent sur, encore une fois, ce qui est fiable pour la plupart, c'est des groupes communautaires Facebook. Mais la dématérialisation arrive, mais c'est encore très récent, c'est pas du tout déployé au niveau national. Donc tout se passe encore avec des assistants sociaux, avec des associations qui aident la personne, et c'est par voie postale, papier, et c'est pas vraiment dématérialisé. Donc c'est là où il y a une gap à atteindre, à améliorer entre ce qu'on peut promouvoir avec un smartphone et le parcours qui se passe pas forcément sur une voie numérique.
D'accord, donc les informations vont passer par les réseaux sociaux et le smartphone, mais par contre, l'exécution de ce parcours administratif devra se faire dans l'administration et par voie postale, etc. Charania, je te donne un petit peu la parole. Alors Louise, tu voulais dire quelque chose avant qu'on aille à Charania? J'ai vu que tu t'étais démutée, qui est le terme technique.
Non, vas-y, tu peux continuer.
D'accord, Charania... Dans ce parcours-là, qu'est-ce qui, pour toi, est le rôle essentiel de la tech? Est-ce que c'est vraiment cette question d'information? Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas forcément, qui entre en ligne de compte dans, au moment de cette première arrivée.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oui. Donc, je pense que Nour, il a déjà presque tout dit, donc merci. Mais juste, je pense que c'est aussi intéressant de penser de... donc, on a ce côté d'information, mais puis, selon le HCR, donc, on a de... Donc, juste, on a de nombreux facteurs différents pour que... pour lesquels les personnes déplacées, ils n'ont pas accès à l'information. Et le HCR, il le classifie dans trois catégories. Le premier, c'est l'abordabilité. Donc, ça comprend des barrières comme le coût élevé d'un appareil ou de forfait mobile. Le deuxième, c'est la disponibilité. Donc, ça concerne des barrières qui découlent notamment de l'absence d'Internet ou de réseau GSM, de la réglementation dont j'ai parlé avant, et également, surtout, l'incapacité de recharger votre appareil. Et puis, on a le troisième, en termes de l'utilisabilité, qui fait référence aux problèmes résultant d'un manque de connaissances numériques, par exemple, de ne pas comprendre comment accéder à Internet en utilisant un navigateur ou même quel forfait ou abonnement à choisir. Et en France, des recherches menées par le DIER et aussi par Solinium et nous aussi en tant que Tarfugis France ont montré que les principaux obstacles sont le coût élevé des appareils et des données, la manque de bandes de recharge, le manque de connaissances numériques dont on a parlé et de la langue française, et aussi des connexions Internet fiables. Donc, si, même si on a des plateformes comme Refugee.info, où on sait à qui on doit diriger vers pour faire les démarches administratives, on a toujours la question des connexions Internet fiables, la manque des bandes de recharge et les points d'accès à Internet. Et après, on a aussi le coût élevé des appareils et des données, qui empêchent les personnes déplacées en France à accéder aux informations. Donc ça aussi, c'est un côté très important en termes de matériel, en termes de hardware. Et c'est dans ce sens-là où on travaille avec Techfugees en délivrant les box Wi-Fi pour aider des réfugiés à accéder à Internet ou des personnes déplacées. Et donc, la question de hardware aussi, c'est important pour comment on peut rendre les appareils, le coût de data et aussi les bandes de recharge, etc., plus accessibles pour promouvoir l'accès à l'information.
Mais du coup, il y a une chose à laquelle je pense immédiatement, c'est effectivement le fait que même s'il est... Enfin, depuis l'arrivée de Free, qui date de quelques années maintenant, peut-être même que vous ne connaissiez pas la situation d'avant, mais c'est vrai que les prix des forfaits Internet se sont effondrés. Il y a... Je ne sais plus quand c'était, ça devait être 2011-2012. Ils ont été divisés par trois, mais ça reste des tarifs qui sont calibrés pour la population française. Quand on est dans une situation comme celle d'un réfugié, j'imagine que ce genre d'abonnement reste un petit peu cher. Et au-delà de ça, il y a même les questions que vous évoquiez tout à l'heure qui sont que bah, on demande un compte en banque ou ce genre de choses pour ouvrir une ligne chez un opérateur mobile. Du coup, j'ai une question qui est très bête, mais concrètement, comment on fait quand on n'a pas accès à une banque, quand on est obligé de se balader de café en café où il y a du free Wi-Fi ou enfin, du Wi-Fi gratuit, oui. Comment on fait?
Donc, Louise, peut-être tu peux ajouter, mais juste, donc, on a deux options. Le premier, c'est comme tu disais, Patrick, que oui, on essaie d'accéder avec les réseaux free. Mais puis après, il y a aussi la possibilité en France d'acheter les cartes SIM prépayées. Et donc ça, je pense qu'il y a toujours besoin de présenter une preuve d'identité, on n'a pas besoin d'avoir une compte bancaire. Donc ça aussi, c'est une très belle alternative. Et en fait, beaucoup de personnes déplacées utilisent ce genre d'abonnement prépayé, pour accéder.
D'accord. Donc bon, on a au moins cette possibilité, effectivement. Nour, pardon, vas-y.
Oui, pardon, j'allais dire que même en complément à ce que dit Charnia, c'est pas vraiment ce qui est beaucoup plus accessible avant, et c'est pour ça qu'on est dans une période difficile où il faut vraiment qu'on se s'entraide pour proposer des connectivités à des personnes en exil, à des personnes migrants, réfugiés en France, parce que on arrive en France, on n'a pas encore des papiers pour avoir une ligne téléphonique, donc on passe par les prépayés, sauf qu'ils sont beaucoup plus chers d'un abonnement normal, de 1. Et donc les personnes n'ont vraiment pas d'argent pour se payer un luxe de 20 à 30 euros par mois pour avoir une connexion avec 10 gigas de connexion. Donc souvent, ils ont quelque chose de 1 à 5 gigas. Il est bas pour une utilisation surtout d'apprentissage du français via le smartphone, via des tutoriels sur YouTube, donc une consommation de vidéos qui n'est pas du tout adaptée au forfait. Donc ce qui se passe réellement, c'est qu'ils sont beaucoup autour des bibliothèques, des restaurants, des gares, qui offrent des points de Wi-Fi. Dans certaines villes aussi, il y a des points par la ville qui sont assurés, mais ce n'est pas suffisant. Et une raison sur laquelle on a travaillé à la DIR sur un appel à projet pour les acteurs d'intégration pour qu'ils fournissent des accès à Internet, c'est les centres d'hébergement. Pendant la demande d'asile, la moitié des de demandeurs d'asile, à peu près, à la louche rapidement, mais à peu près la moitié ont un accès à ce qu'on appelle le DNA, le dispositif national d'accueil. Donc, c'est des centres d'hébergement qui hébergent les personnes en demande d'asile jusqu'au temps qu'ils ont leur décision. Et dans ces centres-là, ils ne sont pour la plupart pas encore équipés des points d'accès numérique. Alors, il y a des questions légales aussi à se poser. Ça, c'est évidemment. Mais il y a aussi il y a ce travail à faire d'équiper ces centres qui, les personnes donc, s'y retrouvent, résidant pendant un moment, par un accès à Internet correct, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle TechQGIS travaille sur l'équipement. Je vous laisse parler de certains centres, une expérimentation avec quelques centres. Et nous aussi, donc, côté de la délégation interministérielle, on considère qu'il faut vraiment améliorer la connectivité, donc travailler aussi sur une formation des travailleurs sociaux sur les équipements numériques également, parce que les travailleurs sociaux manipulent plus les ordinateurs que les téléphones portables, et la population migrante l'inverse, donc ce qui fait que c'est difficile de faire des recommandations l'un vers l'autre, et donc équiper les centres d'hébergement provisoire par des accès d'Internet partout sur le niveau national.
Ok, bah, je pense que j'ai une dernière question sur ce moment qui est un petit peu entre deux, où on a demandé son statut de réfugié. Est-ce que pendant cette période, on a le droit et la possibilité de faire les démarches qu'on fera plus tard, et je pense notamment à cette question d'ouverture de compte en banque ou démarches administratives de la vie courante? Ou est-ce qu'on est dans des sortes de limbes légales et administratives où on n'est pas vraiment sur le territoire, mais un petit peu quand même Oui, Louise.
Oui, alors, à partir du moment où on a le statut de réfugié qui est reconnu, on a à peu près les mêmes droits qu'une personne française. C'est le droit de vote. Donc, à partir de ce moment-là, en France, en règle générale, il n'y a pas de problème. En revanche, dans d'autres pays, c'est vrai qu'il peut y avoir des situations compliquées en fonction déjà de si un pays est signataire de la Convention de Genève, qui est une des conventions internationales qui reconnaît le statut de réfugié. Et je voulais prendre comme exemple, je rebondis sur ta question, puisque pour donner peut-être quelques exemples en dehors de la France d'utilisation de la technologie pour des contextes qui sont spécifiques de par la situation administrative des personnes et de par le contexte géographique local. Je pense notamment au Liban, où on a une équipe de bénévoles avec TechUGIS qui travaille sur tout ce qui est opportunités de travail à distance. En fait, au Liban, il y a des personnes qui sont réfugiées, qui sont souvent syriennes ou palestiniennes, qui ont énormément de difficultés à trouver des opportunités d'emploi dans les secteurs dans lesquels ils ont été formés, parce qu'il y a des limites gouvernementales et parce que il y a beaucoup de difficultés aussi à ouvrir des comptes bancaires. Donc en fait, là, le rôle de la technologie, c'est penser à tout ce qui est paiement, donc qui permet de payer des personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire dans le pays. Et il y a tout ce qui est mise en réseau. Et ça, c'est assez important parce que l'équipe, notamment, avait travaillé, avait fait des interviews et de la recherche dans un camp au nord du pays qui s'appelle Beka. Ils avaient interviewé plus de 280 personnes pour faire une cartographie des compétences. Il y avait énormément de personnes qui avaient été formées dans le numérique et qui parlaient des barrières d'accès à l'emploi, etc. Et l'équipe parlait des plateformes de travail à distance, donc des générales comme Upwork ou des plus spécifiques. Et en fait, 80% des personnes ne savaient pas que c'était possible de travailler à distance ou que ce type de projet existait. Donc, il y a la mise en valeur de ces projets qui est très importante. Et encore une fois, les situations varient d'un pays à l'autre. Il y a des personnes qui sont déplacées à l'intérieur même d'un pays qui ne sont pas forcément incluses financièrement. Et je pense au travail des équipes aussi au Nigeria, dans des camps de déplacés internes avec des artisans locaux pour les aider à avoir accès à un marché international pour vendre leurs produits, parce qu'en fait, personne ne vient acheter des produits dans ces camps-là. Mon point, ce serait de dire la situation dépend et varie énormément d'un pays à l'autre. Mmh. Et il y a des besoins qui sont communs à tous les êtres humains, en fait, et des spécificités qui sont plus liées à l'administratif et au contexte géographique.
Mais c'est hyper intéressant, effectivement, cette question des plateformes qui proposent de déplacer le travail qui peut être fait de manière numérique. Et c'est un aspect auquel je n'avais pas du tout pensé. Évidemment, ça concerne des gens qui peuvent utiliser ce genre d'outils et qui connaissent ce genre de sites et de travaux. Mais ouais. C'est une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui peut donner des coups de main, finalement, si on peut les mettre en place.
Oui, absolument.
Nour ?
Oui, Patrick, je voulais donc te dire sur ta question de base, qui est, est-ce qu'on peut commencer certaines démarches avant l'obtention de statut de réfugié pour alléger par la suite les choses ? Non, malheureusement, il y a très peu il y a des démarches propres à la demande d'asile, et toutes les autres démarches, comme l'a dit Louise, quand une personne est reconnue comme une personne réfugiée, qui rentre dans ce qu'on appelle le droit commun, donc comme les Français sauf le droit de vote, qui sont à faire après, à l'exception près de quelques petites démarches qui concernent par exemple la santé, parce qu'une personne sur le territoire, le plus de 3 mois, il a le droit de demander à l'assurance maladie, d'être inscrit, etc. Ça, c'est des choses qu'on pourrait lancer avant, mais l'immense majorité, et vraiment l'immense, il y a beaucoup de démarches à faire. Il faut vous imaginer, naître à 22 ans dans un pays, enfin en France surtout, où on aime beaucoup la bureaucratie, et de faire tout ce que vous avez fait en toute votre vie, en très peu de temps, d'obtenir une carte vitale, de faire une acte de naissance, etc., faire une demande de logement social, faire une demande d'allocation, si jamais. Et donc, ça fait que, voilà, il y a une moule de démarches à faire une fois qu'on obtient le statut de réfugié, et il faut le faire absolument après, et pas avant.
Combien de temps ça prend entre la demande et l'obtention du statut de réfugié, généralement ?
Donc, les délais annoncés, que, comme je vous ai dit, c'est
ah oui, c'était, c'était les 6 mois, pardon.
Voilà, et ça dépasse, mais... ça dépasse pour plein de questions par la suite, sans parler de ce qu'on appelle des Dublinés, des gens qui ont mis leur empreinte dans un autre pays dans lequel ils demandent actuellement l'asile. Et là, pour le coup, ils font un délai d'attente jusqu'au 18 mois d'attendre avant de pouvoir déposer une demande d'asile. Et donc, ça, ça fait 2 à 3 ans d'attente avant d'obtention de ce statut.
On va conclure en essayant de couvrir un petit peu. Je vais retourner vers Charania. Une fois qu'on est dans une situation un tout petit peu plus stable, qu'on a fait sa demande, il y a encore un rôle important de la tech, toujours par téléphone, peut-être par ordinateur, je sais pas trop, mais quelles sont les choses, là encore, auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent être importantes dans cette période-là, une fois qu'on est plus ou moins installé dans le pays de manière temporaire ?
Je ne sais pas si c'est moi.
Ah, d'accord.
Bah... Peut-être Louise, nous,
ouais.
Vous pouvez m'aider avec ça.
Oui, donc dans cette période, quelles sont les choses auxquelles nous, on ne pense pas forcément qui sont des éléments importants pour la vie quotidienne et pour le moyen terme, on va dire.
Alors, bonne question, c'est peut-être une question que je peux te retourner, Patrick, sur comment toi tu utilises la tech, parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui permettent de faciliter l'inclusion ou les démarches administratives. Après, à partir du moment où ces obstacles-là sont levés, en fait, l'utilisation est la même que n'importe qui. Donc, ça peut être se tenir informé de l'actualité dans son pays, ça peut être travailler à distance, ça peut être apprendre la langue, ça peut être énormément de cas d'usage différents. Mais la spécificité, je dirais, disparaît peut-être un peu plus avec le temps.
Donc, on arrive à une étape où c'est des éléments qu'on peut imaginer comme on va servir d'un outil, enfin d'un site ou d'une app pour apprendre la langue, ce genre de choses. C'est...
Oui. Ouais. Oui, et juste pour ajouter un aspect qui est très intéressant et quelque chose qu'on ne pense pas beaucoup, c'est pendant cette période d'attente, c'est très important pour des personnes de se sentir qu'ils sont en train d'intégrer dans la société où ils se retrouvent. Donc, comment peut-on promouvoir des outils ou des services qui peuvent faciliter le contact entre les Français, par exemple, et des personnes déplacées qui viennent d'arriver en France pour qu'ils se sentent plus intégrés. Et le côté social, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à beaucoup, mais c'est très important. Et l'autre, c'est aussi le divertissement. Donc, cette période d'attente, c'est très, très longue. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont... qui n'ont pas beaucoup de choses à faire parce qu'ils n'ont pas peut-être les permissions pour commencer à travailler ou même de apprendre la langue, etc. Et c'est très important pour aussi de penser de cet aspect social et de divertissement pendant la période d'attente.
Et comment... Oui, Nour, vas-y.
Non, tout à fait. C'est vraiment quasiment le plus important pendant cette période, donc que la personne ne se retrouve pas seule. Est complètement seul, sans une offre officielle, puisque les demandeurs d'asile, on ne leur propose pas d'offres étatiques d'apprentissage du français. C'est juste après l'obtention de statut de réfugié qui peuvent être éligibles. Mais avant, donc pendant cette période, et c'est là où la tech aussi et les divertissements qui peuvent être intéressantes, que ce soit des vidéos sur l'apprentissage du français, des applications et des propositions, des sorties, c'est vraiment essentiel.
Oui, vas-y, Louise.
Pardon, je rajouterai juste une chose aussi sur l'utilisation et sur l'inclusion sociale. Il y a aussi utiliser la technologie, les réseaux sociaux pour se faire entendre et pour prendre part au débat et pour proposer des projets, faire des témoignages et parler de son expérience ou d'expérience des personnes qu'on connaît pour soutenir les personnes qui sont dans cette situation ou pour faire avancer collectivement l'inclusion et l'accueil. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important en France et dans d'autres pays. Et on se rend compte que souvent, on parle de personnes réfugiées sans forcément intégrer ces personnes réfugiées dans le débat. Et je pense que la technologie a un rôle, enfin, peut permettre d'ouvrir ce débat-là.
C'est-à-dire que ça permet, là encore, on est dans un processus de démocratisation de l'accès à ce genre d'outils. Ça peut permettre d'intégrer les personnes concernées au débat qui les concerne, justement.
Exactement.
Ouais, ça leur permet d'y prendre part. Question peut-être un petit peu, un petit peu triviale pour terminer. Sharania et Nour, d'ailleurs, vous évoquiez les questions de divertissement. Concrètement, qu'est-ce que ces personnes font ? Moi, je suis... est-ce qu'on imagine qu'on va prendre un abonnement Netflix ou alors est-ce qu'on, je ne sais pas, on écoute de la musique sur Spotify ? À quoi on va passer son temps, finalement, quand on est dans ces situations ?
Oui, donc, je serai honnête. Je sais pas très très bien aussi, mais je sais que quand on a fait le projet pour distribuer les box Wi-Fi aux associations qui travaillent avec les personnes déplacées en France, on a trouvé qu'en fait, en particulier pendant la période de confinement, le besoin de divertissement c'était très important pour les enfants et pour leurs parents également. Et donc, dans cette situation, c'est plutôt, oui, comme tu disais, c'est pas un abonnement Netflix, mais beaucoup de streaming. Et ça aussi, c'est difficile à faire sur un abonnement 4G et faire un hotspot, etc. Donc, le streaming, oui, c'est une des choses. Et puis aussi, les communications avec les personnes, soit de la famille ou même des amis en France, etc. Et donc ça, je pense que c'est les deux premiers cas en termes de divertissement.
D'accord.
Oui, okay. Tout à fait. Oui, pardon, je voulais simplement dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que les demandeurs d'asile, donc, pendant cette demande, n'ont pas un compte bancaire, n'ont pas une carte Visa qui permet de payer quoi que ce soit en tant qu'abonnement. Donc l'idée, c'est vraiment de saisir de tout ce qui peut être gratuit, et seulement gratuit, parce que ni de source d'argent suffisant, ni des cartes, des moyens de paiement tout court, et ce qui rend tout ce qui est payé est limite inaccessible. D'où le streaming et d'où, en temps normal, toutes les activités proposées par le tissu associatif qui sont... Il y en a quand même pas mal. Et donc, des orties, des foot, des ateliers culturels, des chants, des randonnées. Enfin, il y a pas mal d'activités qui se proposent aux personnes, et surtout des ateliers sociolinguistiques aussi, donc qui sont proposés par les tissus associatifs et non pas étatiques pendant la demande d'asile, pour que la personne rencontre d'autres, commence à avoir un petit réseau et apprendre le français.
D'accord. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce qu'on pouvait couvrir dans l'émission. Avant de conclure, je voudrais vous donner l'opportunité à chacun d'ajouter quelque chose, s'il y a une chose importante qu'on n'a pas évoquée ou à laquelle je n'ai pas pensé. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter ?
Oui, juste un petit mot pour dire que oui, c'est génial qu'on voit beaucoup de services pour des personnes déplacées qui sont en transition et en train de devenir dématérialisées. Mais c'est très important aussi de se rappeler que la question de la privacité des données et la sécurité pour les populations fragiles et vulnérables, c'est aussi très, très important. Donc, ça aussi, c'est un côté qui commence à devenir...
À prendre de l'importance, quoi.
Oui. Mais c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de travail à faire, beaucoup de choses à penser. Et donc, oui, c'est bien qu'on utilise la technologie, mais c'est aussi important de souligner la privacy des données et la sécurité pour les populations vulnérables.
Oui, il faut le faire, mais il faut bien le faire, quoi.
Exactement.
OK.
Et moi, pardon, Louise, vas-y. Et après, je donne la parole.
tu concluras, Nour. Vas-y, Louise.
Merci, Nour. Oui, je vais rebondir sur ce que tu disais, Sarania, qui est assez important. La technologie, alors c'est un très grand mot, ça regroupe beaucoup de produits ou de services et il y a différentes manières de construire ces produits et ces services. Donc, comme je sais que l'audience qui écoute tes podcasts, Patrick, est très au fait de ces sujets-là et des sujets technologiques, je les invite, s'ils sont intéressés, à lire les principes directeurs de TechFugis, qui sont ici de l'expérience d'accompagnement de projets numériques à destination des personnes déplacées depuis plus de 5 ans sur la co-construction, sur la protection des données, sur un autre point qui me semble assez important et on en a un petit peu discuté, qui est de dire la technologie ne résout pas tout. C'est un outil qui peut être utilisé pour un but donné, mais il faut, enfin, y a beaucoup de projets très branchés qui ont fait beaucoup de bruit, qui se sont développés de blockchain et d'intelligence artificielle, certains qui sont très bien, mais beaucoup qui ne sont pas du tout adaptés aux utilisateurs et qui finissent en fait pas utilisés parce que c'était pas forcément les bonnes manières de développer ces solutions-là. Et donc je dirais les principes directeurs et si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est une plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle Veilfugis, qui regroupe des exemples de projets à travers le monde et qu'on essaye d'accompagner. Donc c'est un moyen de vous impliquer aussi si vous le souhaitez.
Pour les principes directeurs, c'est donc sur le site techfugees.com, le premier menu, il y a qui sommes-nous, qui nous sommes, et il y a les 8 principes directeurs qui sont décrits, donc sur techfugees.com. L'autre élément dont tu parlais, c'est
C'est une plateforme qui s'appelle Veilfugis, qui est également disponible sur le site techfugees.com.
D'accord.
Et c'est dans la partie innovation, donc hackathon, et on va publier un article sur Veilfugis très prochainement.
D'accord. Donc, vous pourrez trouver ça dans la partie programme et projet, innovation, hackathon. Très bien.
Merci beaucoup.
Nour, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, merci. D'abord, merci aux personnes qui ont resté jusque-là à nous écouter sur ce débat qui nous est cher et qu'on peut en débattre encore 10 heures. Mais pour moi, si on doit retenir deux choses, si j'en permets, si on veut venir en aide, parce que j'imagine que vous êtes intéressé par cette cause, c'est pour ça que vous êtes arrêté sur ce podcast, il faut donner de l'information et de l'autonomie pour les personnes, et ce qui c'est les deux choses qui fait que les personnes seront au mieux acteurs de leur propre parcours d'intégration, et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, ne pas toujours se faire aider, mais qui savent comment s'aider tout seul. Dans ce sens, moi je travaille donc avec mon équipe sur la plateforme réfugié.info, donc le site c'est réfugié en pluriel sans accent.info, sur lequel vous pouvez faire deux choses. La première, c'est de consulter l'information qui sont proposées aux personnes réfugiées au dispositif et aux démarches, donc aux programmes auxquels ils peuvent participer, aux démarches administratives qu'ils peuvent avoir besoin. D'une manière traduite, vous pouvez donc être engagé en orientant des personnes vers réfugié.info et en l'utilisant, en expliquant les démarches et les dispositifs aux personnes avec eux, dans plusieurs langues, ça vous pouvez le faire. et vous pouvez également contribuer à mettre plus de dispositifs pour enrichir la plateforme Réfugiés.info qui est accessible à tout le monde. C'est une plateforme collaborative que vous tous, vous pouvez rajouter vos dispositifs et vos démarches pour qu'il y ait une meilleure couverture. Nous, on s'occupe de la traduction par la suite et de la publication. Donc, n'hésitez pas pour toute question à me contacter. Et là, je vais prononcer mon mail, attachez-vous. C'est tout simple, Nour, N-O-U-R, @réfugiés, donc en pluriel, .info, sans accent, avec grand plaisir. Et merci encore une fois de nous avoir écoutés jusque-là.
Ben merci Nour. Je mettrai les liens vers les sites dont on a parlé sur, dans les notes de l'émission, évidemment, avec tous ces liens-là. J'espère que vous aurez de quoi vous informer. Charania, est-ce qu'il y a un lien qu'il faudrait mettre ou c'est celui de TechFugees ou un autre spécifique ?
Oui, c'est celui de TechFugees, oui.
D'accord. Donc, on aura TechFugees et réfugiés.info dans les notes de l'émission. Et du coup, bah, Nour, on va mettre ton adresse email également. Hein, Nour@réfugiés.info.
Avec plaisir.
Super, ben merci à tous les trois. J'espère que cette émission aura été intéressante pour les auditeurs, que ça vous aura apporté quelque chose. On a déjà donné les liens, donc ce que je fais généralement, c'est donner les liens, on les a déjà. Et ben, je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve, je ne sais pas quand, parce que normalement, je vous dévoile mes secrets du passé pour le futur. Normalement, cet épisode sera diffusé pendant que je serai en congé paternité. Donc, à quel moment du congé, quand ça va, quand je vais revenir, tout ça, je ne sais pas. Mais l'émission elle-même restera présente toutes les semaines. J'espère en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a prévu. Et je reviendrai très bientôt également. Donc, merci encore à vous trois. Et pour tous les autres, on se retrouve très bientôt. Ciao à tous.
Merci beaucoup.
Merci et félicitations.
Oui, félicitations Patrick, c'est génial.
Merci, merci beaucoup, merci, merci. J'espère que ça se passe bien, moi je suis terrifié là, c'est le deuxième et j'ai très très peur.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.